Le thème de la journée d'étude, donc, c'est biographie et génétique. Je ne vais pas faire de commentaires d'emblée. J'ai suggéré de démarrer un peu la réflexion du matin autour de la notion d'intime sur lequel je vais ouvrir ce premier atelier par quelques remarques qui ne sont pas des vérités assénées et définitives, qui sont plutôt des suggestions, des idées à partir de cette notion d'intime. C'est une notion, l'intime, qui est très utilisée dans le vocabulaire courant de tous les jours, actuellement dans le vocabulaire quotidien, et qui désigne donc une partie immergée, si l'on veut, si on comparait cela à un iceberg, la partie visible, c'est un peu la biographie telle qu'on la connaît, et il y a en dessous tout quelque chose qu'on connaît moins bien ou qu'on se défend de connaître et qui est l'intime et qui, comme chacun le sait à propos des icebergs, la partie immergée est peut-être plus importante que la partie émergée. Donc je partirai d'un, ben, tout bêtement, enfin c'est pas bête non, je veux dire, d'un des vers les plus célèbres de la langue française peut-être, « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Beaucoup de lycéens, même si les profs disent souvent que les lycéens ne savent plus rien, quand même, je pense que beaucoup de lycéens ont entendu parler, ou ont dans la mémoire peut-être même, ce vers qui est, là aussi, chacun le sait, que Victor Hugo a écrit pour l'anniversaire de la mort accidentelle de sa fille Léopoldine, qui s'était noyée à Villequier. Donc, ce poème, ce premier vers en particulier, renvoie à une indication biographique, une indication historique, et qui est souvent donné comme l'essentiel. Voilà, c'est le point de départ. C'est un poème que Victor Hugo a écrit pour l'anniversaire de la mort de... C'est dans tous les manuels presque écrit de la même façon. Et ça fait un peu la base de ce qu'on a appelé l'exercice... Enfin, de ce qui est l'exercice roi dans les lycées, au lycée, qui est l'explication de texte. On commence les explications de texte en donnant cette indication historico-biographique. Mais évidemment, si on se met d'un point de vue qu'on pourrait appeler poétique, c'est-à-dire en se demandant comment le texte est fait, comment il se fait, quelle émotion il transmet, etc., rien n'est vraiment dit. Parce que l'explication, cette explication-là que j'évoque, elle est donnée de l'extérieur. Hein, elle est donnée en quelque sorte de l'extérieur. Et elle ne considère pas le texte ou le poème, disons, en tant que tel. Alors, avec un mot comme « en tant que tel », je renvoie plus ou moins dans les mémoires à Jacobson, à Barthes, etc., etc. Donc vous allez me dire, peut-être... sont un peu des vieilles lunes. Enfin, disons qu'en tout cas, c'est vrai que la littérarité, tout cela, a été avancé de manière peut-être un peu imprudente par Jacobson à l'époque. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est que l'information historique, je veux dire, plutôt que de le formuler autour de cette notion de littérarité en tant que telle, je le formulerai plutôt de la manière suivante. Cette information historique, elle ne fait que renvoyer à l'individu Hugo, dans sa vie personnelle. Et elle ne rend pas compte de ce qu'on peut appeler le sujet de l'écriture, qui est celui qui a travaillé, qui a repris son texte, qui l'a agencé, etc. Peut-être au fil d'une genèse compliquée ou non, ça, c'est à voir, pour atteindre ce qu'on pourrait appeler une sorte de vérité, non pas une vérité historique, mais une vérité émotive, pour aller au-delà, en quelque sorte, de l'accidentel, l'événementiel. Au-delà n'étant pas tellement à entendre au sens de dépassement, hein, parce que parler de dépassement en termes d'esthétique, comme si Hugo avait travaillé pour rendre cet accident plus beau, je crois que ça n'est pas une bonne voie, parce que le jugement esthétique est soumis à une très grande variabilité culturelle, et donc on parlera plutôt, je préfère parler en termes de vérité intersubjective, c'est-à-dire comment on arrive par le poème à communiquer du vécu, à communiquer de l'ému, en quelque sorte, de vécu, ému et pouvant aller ensemble. C'est le lien entre poésie et émotion est évidemment un thème très récurrent dans la littérature. Alors, la génétique, qui est le terme sous lequel nous choisissons de mettre nos travaux, et qu'on peut définir brièvement à la suite de Pierre Marc de Biasi comme une science des processus, hein, une science des processus d'écriture, elle s'est donnée donc pour objectif de rendre compte du travail réalisé par ce sujet dont j'ai parlé, ce sujet du poème, à partir de l'étude des manuscrits, à partir de aussi des éléments complémentaires, et on en parlera peut-être aujourd'hui, qui peuvent être la correspondance, les corrections au fil des publications, enfin, je veux dire, il y a les manuscrits, certes, mais il y a aussi toute une série d'éléments qui permettent donc de déterminer, en gros, quel est et comment évolue, comment ce sujet de l'énonciation, ce sujet du poème, donc qui travaille à transmettre un vécu, et non pas un vécu historique, justement, mais à transmettre peut-être une émotion vivante. Donc, parce que là, vous voyez, on retrouve évidemment les grands éléments de l'énonciation, tels qu'ils ont été beaucoup développés par les recherches et la linguistique de Benveniste, et qui ne se réduit pas aux marqueurs d'énonciation, aux embrayeurs, comme on dit souvent, je, tu, etc., etc. Trop souvent, il y a cette idée que un poème est d'autant plus personnel, alors peut-être d'autant plus intime même, qu'il multiplie, en quelque sorte, qu'il multiplie les marqueurs d'énonciation. Or, l'énonciation, ça n'est pas seulement cela, et je crois que c'est bon de le rappeler pour parler un peu de la genèse de mon petit topo. J'avais pensé le faire au début avec Jean-Louis Schiss, qui est un vieil ami d'une part, mais qui d'autre part est un linguiste de la même formation, en un sens, que moi. Et puis finalement, il a dit « Non, mais je te laisse sur ton terrain, c'est pas... » Enfin bref, on n'a pas été jusqu'au bout, mais il me disait « C'est important de rappeler, effectivement, que l'énonciation, c'est pas simplement le repérage des marqueurs d'énonciation, mais c'est l'ensemble du rythme, c'est l'ensemble de l'agencement du discours, c'est l'ensemble de la dynamique du discours. » Et ça me paraît ici une notion importante. Et puisqu'on se centre, on se centrera tout à l'heure sur Sonny Laboutancy, je crois qu'on peut l'illustrer un petit peu par ce titre que j'admire énormément d'un recueil de poésie qu'il a publié chez Clé, qui s'appelle « Ici commence ici ». Je crois que c'est un titre tout à fait intéressant, et il le commentait ainsi, Sonny, en disant « Le poète se nomme à traverser la vie là où la viande est ferme. Il se choisit à tirer les choses par leur nom. Bref, il parle, agit et respire à titre d'émotion. » Bon, voilà, ça me paraît une bonne approche un petit peu de cette notion donc d'intimité, d'intime. Ici commence ici, il y a si vous voulez un marqueur d'énonciation qui est ici, qui renvoie au jeu ici maintenant, donc la série des marqueurs, mais il y a aussi le ici commence ici, hein, avec une phrase qui est refermée sur elle-même et qui donc a un certain rythme par sa construction même. Alors, donc là, vous voyez, il me semble que c'est là que s'inscrit, d'une certaine façon, le début d'une réflexion sur l'intimité, de l'énonciation à l'intimité. Alors, la définition de l'intimité a beaucoup varié au fil des siècles, évidemment. Autrefois, elle était très... Enfin, autrefois, dans les premiers temps, elle était très associée au sacré. Hein, l'intime, c'était ce qui était des lieux qui étaient protégés par la religion, par la foi, d'une certaine façon. Il n'y a pas plus intime que, d'une certaine façon, le lieu de la croyance, peut-être le lieu de la foi. Enfin, peut penser cela. Et puis, ensuite, elle s'est rapprochée de l'individuel pour proscrire, à ce moment-là, la manifestation de tout ce que le puritanisme du XIXe siècle a condamné comme étant de nature exhibitionniste, le corps, les sentiments... psychophysiologique, la famille, mais surtout évidemment la sexualité, mais tout ça revenant à jeter l'opprobre un petit peu, ou en tout cas à fermer la porte, à tirer le rideau sur ce qui relève de la sexualité et de l'être, d'un être intime. Donc, c'est ceci qui explique peut-être que le journal intime, dont il sera à nouveau question, je crois, ici, aujourd'hui, soit devenu, à partir du début du romantisme, enfin, Amiel, tous les mémorialistes de ce temps, une sorte de bréviaire secret de l'élaboration d'une œuvre qui méritait seule d'accrocher la lumière. Donc, pour parler de soi, on utilisera le journal, mais pour parler du monde, Mais pour parler du monde, on utilisera des chroniques. On fera des chroniques, par exemple. Et c'est deux mondes séparés. Hein, le journal et la chronique. C'est pas du tout la même chose. La chronique est soumise au temps, à l'histoire, à l'histoire du monde, tandis que l'intime est hors de ces catégories-là. Ou alors, naturellement, on pourra écrire des fictions réalistes, mais c'est un autre choix. Mais même dans ces fictions, c'est toujours la même chose. Elles étaient en général écrites sur le mode de la chronique, c'est-à-dire par un individu qui gardait son col cassé, son lorgnon, et qui regardait Zola, n'est-ce pas, il regardait Coupeau et tout cela de haut, de loin. Donc cette dichotomie s'est installée à ce moment-là, une dichotomie entre être social et être intime. Contre lequel Antonin Artaud va protester. Il écrira à André Breton qui avec ses amis s'inscrivait, enfin je veux dire, voulait militer dans les rangs du Parti communiste. Il écrira à André Breton « Mais à quoi bon la révolution si l'être intérieur, le moi authentique, reste dans la souffrance. » Donc, la révolution, à ce moment-là, ne sert à rien. Enfin, c'était la position d'Artaud pour refuser cette attitude de l'engagement social et politique. Donc, pour Artaud, il faut donner voix au corps. Et chacun sait que c'est ce qu'il a fait sur un mode interjectif que l'on connaît. Et peut-être est-ce proche ou comparable à ce que Sonny Labutansi a entrepris de faire. C'est une question que je pose plutôt que... Enfin, que je lance une idée plutôt que de la développer. Donc, encore un mot pour dire que qui va toujours dans ce sens de délivrer l'intime d'une sorte de narcissisme honteux dans lequel il est enfermé et qui fait que donc il y a beaucoup d'écrivains qui disent « Ah non, mais ça c'est ma petite cuisine, c'est des histoires de, je ne sais pas s'il faut dire de fesses ou de etc. Enfin, sentimentales, en tout cas, ça n'a rien à voir. Je ferme la porte. » Donc, il y a certains écrivains aujourd'hui qui ont proposé, c'est mon titre, n'est-ce pas, de l'intime à l'extime, qui ont proposé de parler d'extime. C'est une sorte de néologisme. Qui n'est pas une sorte de néologisme, qui est un néologisme, qui a été inventé par Michel Tournier dans un petit bouquin, vous voyez, qui s'appelle « Journal extime » en 2002. Et donc, Michel Tournier, qui, vous savez, avait eu le prix Goncourt, je crois, pour « Le roi des aulnes », invite le dehors a entré pleinement dans son dedans, en considérant que l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, est un homme profondément historicisé. Et être historicisé, ça a cela comme conséquence. L'homme moderne est entré dans l'histoire, et l'histoire est entrée en lui. De sorte que le partage entre un être social, d'un côté, et un être intime, un être psychologique, en tout cas, n'a plus de raison d'être. Ce projet, d'ailleurs, a été repris par Annie Ernaux, aussi, qui a écrit un journal du dehors, en 1993, et en 2000, un livre qui s'appelle « La vie intérieure extérieure ». Mon lapsus est tout à fait fâcheux. Non, « La vie extérieure ». Donc, c'est à nouveau, il s'agit de promouvoir une écriture du dehors, dans l'idée que, je la cite, « on se découvre soi-même davantage en se projetant dans le monde extérieur que dans l'introspection du monde intime ». Vous voyez qu'il y a là véritablement un renversement de perspective. Ça, c'est une citation extraite du journal du dehors. Donc, sa démarche, la démarche d'Annie Ernaux, se propose donc d'atteindre, je cite à nouveau, la réalité d'une époque au travers d'une collection d'instantanés de la vie collective. Alors, ces propositions, alors il faudrait analyser évidemment les œuvres que ça a données, et peut-être est-ce un petit peu décevant, mais enfin bon, en tout cas, l'idée est importante, et ces propositions me semblent pouvoir entrer en phase avec une réflexion sur le monde. D'abord en phase avec évidemment les fondamentaux de la linguistique de l'énonciation dont on parlait tout à l'heure et de Benveniste par exemple disant quand on lui disait mais ça sert à quoi la langue ? La langue ça sert à vivre, hein, voilà. Donc c'est toujours cette notion de vivant, de vécu qui est au centre et voilà. Alors il me semble que ces quelques marqueurs d'évolution, ces quelques lieux d'évolution en même temps, peuvent avoir leur importance pour parler du travail de l'écrivain africain contemporain. Alors, je le suggère parce que, d'une part, contrairement aux propos réactionnaires de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar, l'homme africain est évidemment bel et bien entré dans l'histoire. Et encore une fois, je rappelle que entrer dans l'histoire, ça veut dire aussi que l'histoire entre en vous. Ce double mouvement est tout à fait central, essentiel. Et il est bel et bien entré dans l'histoire, son histoire, naturellement, et l'histoire du monde aussi. Et que, s'agissant de l'écrivain, par exemple africain, toute écriture africaine est désormais, peut-être, selon l'expression de Patrice Nganong, une écriture post-génocide. À la fois le génocide, si j'ose dire, européen, certes, en arrière-plan, mais évidemment aussi le génocide du Rwanda. C'est une expression qui se trouve dans le manifeste d'une nouvelle écriture africaine que, grâce à Jean-Michel Deveza d'ailleurs, on peut retrouver maintenant aux presses universitaires de l'Université de Limoges dans une réédition de ce livre qui est une réédition importante. Donc il y a un engagement volontaire ou non, parce que l'histoire ne vous demande pas toujours votre avis, n'est-ce pas ? C'est pas la même chose que l'engagement. Hein. Ça veut dire que l'engagement volontaire, héroïque, etc., etc. Là, ça peut être un engagement involontaire, mais l'essentiel, c'est que l'histoire désormais à l'intérieur de la personne et que ceci affaiblit toute possibilité d'un repliement individuel. Vous voyez, c'est-à-dire en quelque sorte, je pense, si vous voulez, que quelqu'un comme Sonny Labudanti ou comme Ganong est d'une certaine façon proche des positions d'Artaud dans ce refus d'opposer être social et être psychologique. Alors, encore une fois, l'engagement dans une histoire proprement africaine qui s'affirme très nettement et qui peut être marqué doublement, soit par un très fort sentiment d'appartenance à une communauté, à une collectivité qui a une histoire. Les écrivains africains sont plus, en quelque sorte, sensibles à au fait que leur communauté, leur collectivité d'appartenance, tout ça n'a rien de tribal, ça renvoie, c'est pris dans une histoire. Dans une histoire qu'il faut retrouver, reconquérir. Et qui est aussi, d'un autre point de vue, un engagement dans l'histoire du monde. Et naturellement, selon la place où se situe cet écrivain africain, cette relation avec l'histoire du monde va être différente. Mais enfin, ça correspond à ce que Achille Mbembe, par exemple, appelle un enchevêtrement inédit aujourd'hui de l'intérieur et de l'extérieur. Où dit-il, la quête philosophique n'est pas la question de l'être, comme chez les Grecs, c'est-à-dire que la recherche de l'écrivain, de l'intellectuel africain n'est pas ontologique, mais c'est celle d'une relation, des nœuds et des potentiels de situation. Donc on pourrait dire qu'elle est relationnelle, mais le mot est un peu flou, il faudrait être plus précis. Je répète, ça me paraît bien, celle de la relation, des nœuds et des potentiels de situation. Alors, c'est ça l'extime, d'une certaine façon, possible. On n'est pas obligé d'utiliser ce mot-là, mais je le lance simplement pour accrocher, en quelque sorte, la réflexion. Donc, l'extime, c'est le moi en relation, et qui n'existe que par et dans sa relation avec l'autre, et à l'autre. Donc, ce terme peut peut-être servir à caractériser aujourd'hui le discours littéraire africain, un discours qui est donc tout à fait étranger au repli sur une intimité individuelle. Je dirais qu'à la limite, la notion de journal intime ne parle pas beaucoup dans la littérature africaine toutes ces raisons que je viens de dire. Et après, si on rentre dans la considération des cas individuels, donc on pourrait par exemple penser que même si Chikaya Utamsi, par exemple, qui était le père de notre rêve, selon Sonny Labutansi, Chikaya qui a vécu principalement en France. Mais Chikaya, même s'il a été lu souvent comme une sorte de romantique inconsolable, comme un individu souffrant relativement à l'histoire de sa mère, son père, son pied beau, etc., etc., il faut aussi le lire à partir de l'Afrique. Et dans son extimité, si je puis dire, de sujet habité par le Congo, la phrase est très connue, n'est-ce pas ? D'autres habitent le Congo, moi je suis habité par le Congo. C'est un sujet, voilà, habité par le Congo, de sorte que ce ne sont pas ces amours, ces détestations, ces mauvaises humeurs, c'est tout ça, qui disent la vérité de sa relation, mais c'est, et alors là encore on pourrait en parler, c'est son dialogue avec d'autres Congolais. Parce que dans le fond de son intimité, extimité, il était habité par le Congo. La liberté congolaise est mon écharpe au cœur, comme moi après Kin, le fleuve s'étrangle d'agonie. Autre cas particulier, alors que ce sera celui de Sonny Labodanzi, mais là je mets des points de suspension, et donc je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième temps, n'est-ce pas, deuxième temps de cette matinée, à l'atelier, qui est donc animé, que j'animerai, mais qui va voir successivement intervenir. Alors, je les cite par ordre alphabétique, et je pense qu'il y a personne, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose contre l'ordre alphabétique, mais bon. C'est-à-dire Jean-Michel Deveza, Céline Gangou, Xavier Garnier et Nicolas Martin-Granel. Alors, je présente rapidement ces quatre collègues et amis et tous éminents chercheurs sur Sonny Labodanzi. Jean-Michel Deveza donc, est professeur à l'Université de Limoges et il a consacré sa thèse de doctorat à l'œuvre romanesque de René Crevel. Puis il a publié ensuite beaucoup de textes sur les études, sur les surréalistes, sur des écrivains comme Jacques Chessel, Anaïs Nin, Jean Genet. Et puis il s'est aussi spécialisé parallèlement, si j'ose dire, sur les littératures francophones, avec un intérêt particulier pour Sonny Labodanzi, parce qu'il l'a bien connu personnellement au Congo. Et il lui a consacré un livre qui a fait date et qui s'appelle Sonny Labodanzi, écrivain de la honte et des rives magiques du Congo, publié à l'Harmattan en 96. Et puis je présente les quatre personnes à la suite, peut-être, ou alors au fur et à mesure, quand ils interviennent. Oui, alors, du point de vue du fonctionnement, je propose que les interventions soient relativement courtes. Un quart d'heure à peu près. Après, on peut avoir une ou deux questions, mais le débat, si vous voulez, aura vraiment lieu une fois que les quatre exposés auront été faits. Donc, je ferai les petites présentations au fur et à mesure des intervenants. Donc là, je passe la parole donc à Jean-Michel Deveza. Oui, tu appuies sur le bouton. Ça.